À l'océan?
I hope for your help to explore and protect the wild ocean in ways that will restore the health.
Les destructeurs de l'océan peuvent commencer à trembler. La puissance citoyenne est en chemin.
Health to the ocean means health for us.
Nous sommes la détermination, nous sommes le nombre et nous sommes inépuisables. Aux amoureux de l'océan et aux défenseurs du climat, de la justice et d'un vivre ensemble joyeux et réinventé. Le combat ne fait que commencer. La
mer. Bienvenue dans À l'océan, l'émission qui donne des nouvelles de nos océans, nos abysses, nos mers, nos littoraux, bref, de nos milieux marins et des merveilleuses créatures qui s'y trouvent, mais aussi des menaces et des destructions qui pèsent sur ces écosystèmes. Pas de panique, je vous donne des petits tips pour lutter contre. Je m'appelle Clotilde et je suis passionnée de biologie marine. Je vous invite à mettre vos palmes, votre tuba et plongeons ensemble à la découverte de notre planète bleue.
Bonsoir mesdames et messieurs. Le navire a atteint le rivage.
C'est avec ces mots que l'ambassadrice de l'ONU pour les océans et les droits de la mer, Rena Lee, s'est exprimée en septembre 2025. Et le navire dont elle parle, c'est l'accord pour la protection de la haute mer, le Biodiversity Beyond National Jurisdiction, le BBNJ pour les intimes. Et pourquoi je vous parle de ça? Car le 17 janvier dernier, c'était la date de la mise en œuvre de cet accord ratifié par 73 pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Quelles en sont les limites? Je fais le point avec vous dans À l'océan. Cela fait plus de 20 ans que les pays négocient pour mettre en œuvre ce traité pour la protection de la haute mer. Oui, on ne peut pas dire que l'urgence climatique soit dans tous les esprits. Mais célébrons tout de même cette victoire qui arrive au moment où les océans sont les plus menacés par la surpêche, par l'exploitation minière, l'effondrement de leur biodiversité, la pollution et le réchauffement climatique. Oui, oui, rien que ça.
Eh ben, on n'est pas sorti du sable!
Bon, déjà, c'est quoi la haute mer? Imaginez, une vaste étendue d'eau, avec personne à l'horizon, seul. Dans l'immensité bleue, loin de toute côte, à exactement 370 km des côtes et de toute juridiction nationale. Et sous la quille de votre bateau, des richesses immenses, des bancs de poissons, des métaux rares, un véritable Eldorado exploitable, voire surexploitable, pour qui n'a pas froid aux yeux et a le pied marin. Sans contrainte, sans loi ni réglementation. C'est la loi du plus fort qui s'applique et du pas vu, pas pris. Bref, c'est le Far West. Avant l'entrée en vigueur de ce nouvel accord pour la protection de la haute mer, cette zone était une zone de non-droit où beaucoup de pratiques désastreuses de pêche, d'exploitation, d'exploration étaient et sont toujours pratiquées. La haute mer, c'est 60% des eaux internationales. C'est une zone qui n'appartient à aucun pays, à personne, ou plutôt à tout le monde. Et il était plus que temps de la protéger. Actuellement, seulement 0,9% de la haute mer est protégée, notamment de la pêche industrielle. Et l'objectif du traité est d'arriver en 2030 à 30% d'océans protégés, soit presque 12 millions de kilomètres carrés, c'est plus grand que la superficie du Canada. Sacré challenge! Allez, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord de protection de la haute mer? Son objectif déjà, c'est d'améliorer la gouvernance des océans, de créer des outils pour une meilleure gestion et protection de l'environnement marin et de ses ressources génétiques.
C'est compliqué, mais c'est compliqué!
Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre?
Mais non, vous allez voir. Alors, il y a quatre piliers dans cet accord. En premier, l'obligation de faire des études d'impact environnemental des activités susceptibles d'affecter l'environnement marin de la haute mer. Cela va concerner tous les projets de deep sea mining. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 8 d'À l'océan sur les abysses où je vous explique cette pratique extractiviste. Cela concerne aussi les projets de plateformes pétrolières ou de poses d'éoliennes en mer et autres gros travaux d'exploitation. Plusieurs ONG regrettent que les études d'impact n'ont pas l'obligation d'être faites par des organismes indépendants et que chaque pays pourra faire son étude d'impact. Ce qui pourra entraîner peut-être quelques conflits d'intérêts. Le deuxième pilier de l'accord porte sur le renforcement des capacités et transferts des technologies marines. Cela veut dire que les États doivent se soutenir pour l'application du BBNJ en s'échangeant par exemple des données scientifiques ou des outils techniques et permettre ainsi une coopération pour protéger la haute mer. Le troisième pilier concerne l'utilisation et le partage des ressources génétiques marines.
Et qu'est-ce donc cette diablerie ?
Alors cette diablerie, ça veut dire que les résultats et les recherches sur le matériel génétique des organismes marins, comme les animaux, les végétaux, les champignons ou encore les microbes, qui sont menés par les entreprises pharmaceutiques et chimiques, soient partagés entre tous les pays. Souvent ces recherches coûtent cher et seulement quelques pays peuvent bénéficier des avancées technologiques et sanitaires issues de cette ressource commune qui est l'océan. Et enfin, le dernier pilier concerne la création d'outils de gestion par zone de la haute mer, notamment pour faire des aires marines protégées ou encore AMP. Dans ces aires marines protégées, les pêches industrielles destructrices comme le chalutage de fond y sont interdites. Le traité BBNJ a identifié comme première aire marine protégée l'océan Austral et la mer des Sargasses. Cette dernière est dans l'océan Atlantique. Oui oui, une mer dans l'océan. Contrairement aux autres mers définies par des côtes, comme la mer Méditerranée, la mer des Sargasses est délimitée uniquement par des courants océaniques. Elle est bordée par le Gulf Stream à l'ouest et au nord-ouest, la dérive nord-atlantique au nord, le courant des Canaries à l'est et le courant nord-équatorial au sud. L'objectif de l'accord est d'éviter de faire des parcs naturels dits « de papier » et de mettre rapidement en place des dispositifs de surveillance pour l'application des dispositions de protection de la biodiversité marine. Les aires marines protégées, ou AMP, sont de bons outils pour permettre à l'océan d'exercer sa résilience. Surtout que la zone d'influence d'une AMP va souvent plus loin que ses limites géographiques sur le papier. Et oui, les poissons et autres organismes marins ne connaissent pas nos frontières et délimitations. Donc si on les laisse tranquilles à un endroit, souvent, cela déborde et rayonne autour de cet endroit. Les scientifiques estiment que les biomasses de poissons sont 670% plus importantes dans les AMP que dans le reste des eaux environnantes non protégées. Mais dis donc, nous la France, en étant la deuxième puissance maritime grâce à un territoire marin immense et donc une très grande zone économique, on doit en avoir des zones protégées, des AMP, me diriez-vous ? Eh bien non. Enfin, on en a, mais nous ne protégeons que 4% de nos eaux, contre 23% pour les États-Unis et 39% pour le Royaume-Uni. On est loin des 30% annoncés par le président Macron au sommet de l'océan tenu à Nice en 2025. Une AMP sert à assurer la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés. Les activités industrielles y sont interdites, comme le chalutage de fond par exemple, mais la pêche artisanale y est autorisée. Super, n'est-ce pas ? Mais vous vous doutez bien qu'il y a un loup, et je ne parle pas du poisson évidemment. Bref, en Europe, 86% des AMP se font exploiter par la pêche industrielle, et au nord de l'Europe, c'est deux tiers des AMP qui ont subi 1,4 fois plus de chalutage de fond que dans les autres zones non protégées. Voilà, voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle une belle hypocrisie dont la France n'est pas en reste. Le gouvernement Macron a décidé de redéfinir les statuts de protection des AMP, les appelant « protection forte », alors qu'elles sont en pratique bien plus souples que celles de l'Union européenne et l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cela conduit à un flou juridique qui permet aux industries de la pêche de pratiquer le chalutage de fond dans des zones dites « protégées », les détruisant de fond en comble. En plus de détruire les populations de poissons en tout genre, car la pêche au chalut n'est pas sélective, donc tout le monde y passe, dauphins, tortues, raies, requins, pas de quartier. Le ratissage de fond soulève énormément de sédiments qui ont absorbé du CO2. Les scientifiques estiment que la perturbation sédimentaire provoquée par le chalutage de fond libère entre 15 et 20% du CO2 ayant été absorbé par l'océan. En créant réellement des aires marines protégées, où la pêche industrielle y est interdite, on protège aussi la pêche, et oui. Si on protégeait 28% des océans, on augmenterait l'approvisionnement alimentaire en ressources marines de 5,9 millions de tonnes par an. C'est logique, si les bancs de poissons ont des sanctuaires où ils peuvent se reproduire tranquillement, il y en aura plus, et ce, partout, et pour tous et toutes. Mais cela ira de pair, évidemment, avec la baisse de notre consommation de produits issus de la mer. Alors si vous avez suivi, dans l'accord de la protection de la haute mer, notre BPNJ, il n'est pas mentionné la pêche industrielle dans les quatre piliers. Et oui, et c'est bien dommage. Ce décret ne met pas de contraintes sur le trafic maritime, sur la pêche industrielle, sur les déchets et sur la transition du monde de la pêche. C'est ce que pointent plusieurs ONG, dont l'ONG Bloom, qui a mis en lumière la supercherie des AMP françaises ou encore la présence de thon au mercure dans nos supermarchés. Vous vous souvenez ? Non ? Bah, c'est pas grave, je vous ferai sûrement un récap sur le thon dans un prochain épisode. Je vous mets en description le lien de la pétition de l'ONG Bloom pour avoir des aires marines réellement protégées en France et qui a déjà recueilli plus de 300 000 signatures. Voilà, cet épisode d'À l'océan pour célébrer cette victoire de l'entrée en vigueur de l'accord de protection de la haute mer se termine. On a vu qu'il n'est pas parfait, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour le rendre effectif et continuer à protéger les océans de nos appétits voraces et cupides. Mais cette victoire a été en partie obtenue par l'action des ONG comme Greenpeace ou Bloom, que je vous invite à soutenir. Et aussi grâce aux mobilisations citoyennes. Car n'oubliez pas que notre plus grande force, c'est d'être majoritaire. Nous pouvons faire entendre nos voix. Je vous laisse avec la chanson « Lève-toi » de Barbara Pravi que j'affectionne tout particulièrement. Allez, je vous fais des bisous. Des bisous salés, bien sûr.
Lève-toi, foule. Ne regarde pas le monde qui s'écroule. Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi, foule, montre que dans ton sang, ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière.
L'amour plus grand que tous les pouvoirs. Nous
toi fou.